Chapitre 33. La prison du donjon. Une aube claire saluait le premier jour de l'hiver. Dans le matin bleu, un soleil courageux projetait ses rayons frileux sur le donjon du château de Vincennes. L'impressionnante tour carrée, arrondie à chaque angle par quatre tourelles fortifiées, s'élevait à plus de 50 mètres au-dessus de la cour du château, de l'épaisse forêt qui la bordait au sud et des toits de Paris à l'ouest. Au loin, s'ils levaient les yeux, les prisonniers pouvaient distinguer la fine silhouette de la flèche du tipi ou celle des deux tours massives du sanctuaire. Quatre gardes civils unirent leurs forces pour libérer les chaînes de fer enroulées autour des poulies et baisser le lourd pont-levis. La passerelle de bois était l'unique moyen de franchir les douves, puis les remparts, pour pénétrer dans la cour intérieure du château, au pied du donjon. Mordelia observa les mâchicoulis au sommet des tourelles, les meurtrières du chemin de ronde, les fossés profonds dans lesquels croupissait une eau froide et grise.
C'est tout de même autre chose que le Louvre ou Versailles, non? Voilà ce que j'appelle un château fort, dans lequel nul ne peut entrer, et encore moins s'échapper.
Personne ne répondit à la reine, mais tous évaluaient la hauteur des tours, l'épaisseur des remparts, l'absence de fenêtres à l'exception de rares et étroites ouvertures laissant la possibilité pour un garde embusqué de viser sans craindre d'être touché. Incontestablement, le donjon de Vincennes apparaissait comme une forteresse imprenable.
Ce château sera ma nouvelle résidence, précisa Mordelia. Et pour vous, la dernière.
Le pont-levis tomba soulevant un nuage de poussière.
Après vous,
fit la reine.
Bill menait le groupe. Il avait revêtu une armure de fer étincelante, portait une longue masse d'armes à la ceinture et se déplaçait avec un bruit de poubelle remplie de déchets métalliques.
Faites entrer les prisonniers, ordonna-t-il d'une voix autoritaire.
La dizaine de gardes civils poussèrent sans ménagement les quatre ministres et le conseiller. Isalis, Vanille, Jean d'Arc et Liu portaient d'épaisses chaînes aux pieds et aux poignets, tels les bagnards du monde d'avant. Ils ne pouvaient se déplacer que difficilement, et à chaque nouveau petit pas, les mâchoires de fer cisaillaient leurs chevilles. Le chignon d'Isalis, d'ordinaire si soigné, n'était plus qu'un nid de serpents grouillants. Les hauts talons des escarpins de Vanille avaient été brisés, et elle avait préféré marcher pieds nus plutôt qu'en boitant. Les lunettes de Liu s'étaient fendues. La large fêlure devant son œil droit lui faisait tout voir en double. Jean d'Arc souffrait toujours d'une plaie au cou, infectée, qui suintait d'un sang noir dès qu'il bougeait la tête sans que ses mains enchaînées puissent l'essuyer. Augénor avait obtenu le privilège de disposer d'une chaîne plus longue entre ses poignets, pour pouvoir pousser les roues de son fauteuil. En retour, Bill avait interdit à quiconque de l'aider. Le grand cerf avait mis plus d'une heure à traverser la cour de gravier devant le château. Les paumes de ses mains n'étaient plus que chair à vif, et pourtant, pas une fois, Augénor ne s'était plaint. Dès que les prisonniers franchirent les douves, ils furent escortés par des prémats et d'autres gardes, beaux de fer à la main et bourse à la ceinture. Ils s'engagèrent dans le chemin de ronde qui protégeait le château et permettait d'accéder à l'escalier du donjon. Les murs étaient couverts de dessins et de mots incompréhensibles, plus serrés que les lettres d'un livre sans images. D'après ce que Bill avait retenu, le château avait servi de prison pendant des centaines d'années et les prisonniers avaient parfois gravé des romans entiers sur les murs.
« Pas sûr, se dit Bill, que les quatre ministres et leurs conseillers en aient le temps, même si Mordelia tient à ce qu'il soit jugé avant d'être condamné. »
Si elle lui avait laissé le choix, il les aurait tous balancés dans les douves, hop, pieds et mains enchaînés, on aurait vu s'ils savaient nager. Ces ministres n'avaient que ce qu'ils méritaient. Ils l'avaient tellement méprisé au conseil, à le considérer comme le dernier des abrutis, à ricaner dès qu'il ouvrait la bouche. Ils commencèrent à gravir les marches de l'escalier en colimaçon. Bill ordonna à deux gardes, 12 et 27, de porter au Génor. Même avec la meilleure volonté du monde, ce serpent roulant ne pourrait pas grimper seul jusqu'à sa jolie cellule tout en haut du donjon. Ils atteignirent rapidement le premier étage.
« On continue !» cria Bill. « Jusqu'en haut !»
les prisonniers prirent tout de même le temps de tourner la tête vers la grande salle voûtée au centre de la tour fortifiée. Un véritable festin avait été dressé. Des victuailles s'empilaient sur une table de bois. Poulet grillé, hérisson braisé, blanc de taupe et rognon de lapin marinés aux herbes des marais. Les sept privilégiés allaient et venaient, aussi rapides et affairés que des fourmis, remplissant les jarres de spit verte dès qu'elles étaient vides, nettoyant sans cesse le sol que des dizaines de pieds sales piétinaient, débarrassant les os, poils, plumes, écailles et autres déchets avant qu'ils s'accumulent, et rapportant sans cesse de nouvelles viandes, rôties ou crues. Crobleu surveillait vaguement leurs déplacements, ses dents de saphir plantées dans un cœur de bœuf sanguinolent. Les cicatrices de son visage étaient couvertes d'étranges pansements. Autour d'eux, une dizaine d'ombrageurs dévoraient les viandes avec tout autant d'appétit. Leurs ombres dansaient au rythme des flammes qui crépitaient dans l'immense cheminée. Dans l'escalier, Mordelia fermait la marche, juste derrière les matricules 12 et 27 qui commençaient à peiner sous le poids du grand cerf.
« Seul !» commenta avec ironie la reine en jetant elle aussi un regard dans la salle à manger. « Tu constateras, Eugénor, que j'ai beaucoup de nouveaux amis et qui me resteront fidèles, crois-moi, tant qu'ils seront bien nourris. »
Ils finirent par atteindre le dernier étage du donjon, épuisés. Les chaînes des prisonniers pesaient plusieurs kilos. Faute d'équilibre, ils avaient failli tomber 20 fois dans les marches en colimaçon rendues bancales et glissantes par le piétinement de ses occupants depuis des siècles. Des lambeaux de peau se détachaient de leurs chevilles entravées, semblant entailler plus profondément encore leur chair à chaque mouvement. Le palier sur lequel ils étaient parvenus s'ouvrait sur un couloir de pierre humide, percé d'une dizaine de lourdes portes de bois.
« Vos appartements, » commenta Mordelia, « j'espère que vous en apprécierez la sobriété. Versailles a un côté un peu trop m'as-tu vu, vous ne trouvez pas ?»
Bill, un trousseau de clés de fer à la main, s'avança jusqu'à la première porte. Le cachot se résumait à une pièce minuscule 1 mètre sur 2, dont les murs, couverts de graffitis plus délirants les uns que les autres, témoignaient de la folie s'étant emparée des condamnés qui s'y étaient succédés. L'odeur de moisie et d'urine était à la limite du supportable, mais paraissait pourtant un désagrément dérisoire comparé au froid glacial qui régnait dans la cellule. L'unique lumière dans la pièce provenait d'une meurtrière taillée dans la pierre, large seulement de quelques centimètres. L'étroitesse de l'ouverture interdisait toute tentative d'évasion, mais ne protégeait en rien des intempéries, vent, neige ou pluie. Mordelia sortit de la poche de sa robe un rouleau de papier et lut, d'une voix dépourvue de toute émotion.
Afin de promouvoir l'avènement de l'ordre nouveau et d'assurer un environnement de justice et de sécurité pour l'ensemble des natifs et natives du monde connu, il a été décidé que le Conseil serait dissous et ses membres jugés pour leurs actes passés.
Elle se tourna vers le plus grand des prisonniers.
« Natif Jean d'Arc, avancez !»
Avec dignité, le ministre des Punitions franchit la porte et se tint droit dans la cellule, refusant de baisser les yeux devant Mordelia.
« Natif Jean d'Arc, poursuivit la reine, vous êtes accusé d'avoir abusé de vos fonctions de commandement, d'invasion punitive sur des terres primitives, d'acharnement sur des camps civils, en particulier lors de l'incendie du camp du désert, de faits d'armes sur autrui, notamment au cours de la tristement célèbre bataille de la Cour Carrée, de félonie envers les valeurs militaires les plus élémentaires. Vous resterez confiné ici jusqu'à votre passage devant la cour martiale. »
La porte de bois se referma.
Native Vanille, avancez.
La grande argentière, ministre du jour et de la nuit, se retenait de pleurer. Elle aussi entra avec dignité dans sa cellule, nettoyant comme elle le pouvait la poussière tombée sur son élégant tailleur gris. Lorsqu'elle s'arrêta, le froid sous ses pieds nus lui donna l'impression que sa peau resterait collée à jamais au pavé glacé.
Native Vanille, vous êtes accusé d'avoir détourné le fruit du travail des natifs et natives du Nouveau Monde à votre seul profit et à celui de votre ambition démesurée. Vous êtes accusé de n'en avoir redistribué qu'une infime partie, plongeant la majorité de vos semblables dans la misère. Vos biens, ainsi que ceux de la scandaleuse banque du Nouveau Monde, sont dès à présent confisqués. Vous resterez confiné ici jusqu'à votre passage devant le tribunal commercial.
Ce fut au tour d'Isalis de se retrouver dans la cellule suivante. La ministre du temps passé, déléguée à l'instruction et à la promotion, n'accorda pas un regard à la reine. Elle passa devant elle en l'ignorant autant qu'une mouche qui aurait volté autour d'elle, puis, une fois dans le cachot, commença à examiner les graffitis anciens sans même paraître écouter les chefs d'accusation.
Native Isalis, vous êtes accusé d'avoir défendu des pratiques artistiques passéistes, élitistes et dépravées, d'avoir tout mis en œuvre pour détruire les cultures primitives autres que la vôtre, d'avoir organisé des épreuves de promotion malhonnêtes lors d'examens truqués afin de vous assurer une cour servile et corrompue. Vous resterez confiné ici jusqu'à votre passage devant un tribunal populaire.
Liu tremblait. Ses jambes ne le portaient plus. Il était trop faible. Son cerveau tournait trop vite. Il n'arrivait pas à faire le vide. La folie le guettait. Il était comme ces vieux ordinateurs dont le processeur, en surtension, menace de disjoncter. Deux gardes civils, 18 et 30, durent le pousser dans la cellule et le tenir le temps que la reine lise son acte d'accusation.
Natif Liu, vous êtes accusé d'avoir expérimenté des technologies dont vous ne maîtrisez pas les dangers, faisant courir des risques mortels à des centaines de natifs et de natives. En ce qui concerne les progrès néanmoins indéniables, issus des recherches dont vous aviez la responsabilité, vous êtes accusé de les avoir réservés à une minorité, alors qu'ils appartiennent à l'humanité. Vous resterez confiné ici jusqu'à votre passage devant un tribunal scientifique.
La quatrième porte se referma. L'écho se répercuta dans le couloir, alors que 12 et 27 jetaient Augénor dans la cinquième cellule, tel un vulgaire sac. Le grand cerf essaya de se redresser en s'appuyant sur ses poignets entravés, mais il finit par renoncer, faute de force dans les jambes. Il dut rester ainsi, allongé sur le sol gelé, à peine capable de ramper. Mordelia baissa les yeux vers lui et s'exprima avec une ironie mordante.
« Je suis désolé pour ton fauteuil roulant, vraiment. » Mais dans une si petite pièce, il ne ferait que t'encombrer. »
Augénor soutint le regard de Mordelia. Comme si, allongé dans une cellule glacée, en haut d'un donjon imprenable, surveillé par des dizaines de gardes aux ordres de Mordelia, il dominait encore la situation et contrôlait les événements. Comme s'il avait tout prévu, tout organisé selon un plan que lui seul connaissait.
Pas cette fois, Augénor, fit Mordelia, lisant dans son regard. « Pas cette fois. Il n'y a pas que toi qui saches mentir, manipuler et trahir. Souviens-toi d'un certain matin, toi et moi, dans ta chambre royale. Tu sais maintenant jusqu'où je suis prête à aller. »
Les yeux d'Augénor ne scièrent pas davantage.
« Natif Augénor !» lut Mordelia, frustré qu'Augénor ne réagisse pas. Vous êtes accusé de haute trahison. Vous êtes accusé d'avoir déclaré la guerre à chaque tribu autre que la vôtre, qui ne désirait pourtant que vivre en paix. Vous êtes accusé d'avoir voulu régner sur le Nouveau Monde, au seul bénéfice de votre mégalomanie sans limite. Vous êtes accusé d'avoir créé, développé et entretenu le culte de Marie-Lune, une croyance considérée dès à présent comme hérétique et punie d'incarcération immédiate pour qui la pratiquera. Pour avoir obligé tous les natifs et natives à vénérer l'être le plus abject que le nuage ait épargné, et pour l'ensemble des autres chefs d'accusation, un procès privé statuera sur votre sort et décidera si vos crimes méritent ou non la peine de mort.